C'est un principe qui pourrait nous unir et favoriser la paix, mais les divisions et conflits sont légion quand on l'évoque, la laïcité. Un pilier de notre République, pourtant difficile à définir. Quand certains imaginent une laïcité à la française, d'autres craignent une laïcité catho-compatible, cheval de Troie d'une islamophobie non assumée. Parfois résumée, à l'instar des livres religieux, à un ensemble d'interdictions ou d'autorisations, le concept passionne alors qu'il devrait injecter de la raison dans nos débats. Des débats aujourd'hui influencés par l'anecdotique qui rendent difficile la compréhension d'un tel sujet, d'autant que la laïcité est un élément complexe à intégrer dans notre quotidien le plus concret. Pourtant, nombreux sont ceux qui se saisissent de la question et placent la laïcité à plusieurs étages de leur programme politique. Au niveau local, par exemple, Rennes a vu récemment la naissance d'un conseil de la laïcité. Et au niveau national, certains candidats à la présidentielle imaginent même une valeur qui pourrait figurer à la suite de notre devise républicaine. Mais au fond, pour quel modèle de société ? Bienvenue dans Chercheur en Guerre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheur en Ville. Notre invité aujourd'hui est Philippe Portier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études Paris-Sorbonne, professeur de sciences politiques et vous répondrez, comme c'est le cas chaque mois sur ce plateau, aux questions de mes confrères Xavier de Bontrite, bonjour.
Bonjour Ronan, bonjour à tous.
Et Christian Lebar pour la MSHB, bonjour Christian.
Bonjour Ronan, bonjour à tous.
Xavier, c'est à vous.
Merci Ronan, vous l'avez indiqué à l'instant dans votre lancement. Le thème qui nous réunit aujourd'hui avec vous, Philippe Portier, était à la fois éminemment passionnel, passionnant, historique et très actuel. On va parler de laïcité avec vous. Vous en êtes l'un des meilleurs spécialistes français. Vous avez consacré de nombreux ouvrages à cette question. Une question un peu polysémique. On peut la prendre avec différents angles. Et au fil du temps, et ça va être ma première question, on a vu que ce concept de laïcité a évolué. On a tous évidemment en tête la fameuse loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Et puis, on a l'impression que c'était un petit peu le repère absolu, intangible, autour duquel tout s'organisait. Aujourd'hui, 110, 112 ans plus tard, c'est un peu plus compliqué que ça. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé de laïcité, en tout cas depuis 20 ans.
Oui, c'est vrai, il y a toujours eu des débats autour de la laïcité. Ils ont cependant ressurgi au cours de la période récente. Et ce sur quoi vous mettez le doigt est, me semble-t-il, très, très important. Nous avions un cadre de la laïcité posé en 1905, non sans controverse d'ailleurs. La laïcité d'un brillant et dangereuse n'est pas celle d'un Combes ou d'un Allard. L'une est d'une certaine manière libérale, l'autre est davantage marquée par un anticléricalisme militaire. Il reste que nous sortons des années 1910 avec un cadre laïque qui, au cours du XXe siècle, a été profondément reconsidéré, profondément reconfiguré, à la fois par le travail des tribunaux et même par le travail du législateur.
Jusque dans les années 70-80, on pourrait dire, pour aller vite, que tout se passe bien sur ce front-là. Il n'y a pas véritablement de grand débat. Ça s'est renforcé, ça s'est cristallisé un peu plus tardivement ou plus proche de nous dans les années 80-90, cette question-là, elle est redevenue politique.
Oui, il y a eu un très, très grave débat, vous le savez, dans les années 1880-1910, autour de la place de Dieu dans l'équation politique, autour de la place de l'Église dans la régulation des comportements. Ce débat ne s'arrête pas à la fin des années 1900. Il ressurgit dans les années 1920-1930, avec cependant une période de relatif apaisement qui est due à la fois à Aristide Briand d'un côté et puis à la nouvelle ligne suivie par la papauté, en particulier par le pontife romain Pie XI. Il reste que à partir des années 1945-1950, ce débat-là ne fait plus réellement époque dans la société française, sauf peut-être sur un objet important, mais un objet ponctuel qui est celui de l'école. C'est à partir des années 1990...
La grande manifestation de 84 pour l'école libre, comme
qui
on disait.
Qui signe au fond le champ du signe d'une guerre des deux France qu'on avait vu se cristalliser au XIXe siècle, mais ce chant du cygne n'est précisément qu'un chant du cygne. L'idée que ce n'est plus désormais autour de la lutte entre l'État et l'Église catholique que les choses vont se configurer, mais davantage autour d'un enjeu nouveau constitué par la question de l'islam. J'ajoute juste un point, je vous disais à l'instant que dans les années 1950-1970, c'est autour de la question scolaire que la question laïque se cristallise. À partir des années 1990, sur le fondement d'une réflexion autour de l'islam, la laïcité devient l'objet d'une controverse autour de ce qui doit faire le lien social. Un lien social dont on se demande s'il doit être marqué par un tropisme unitaire ou au contraire par une acceptation de la différence.
Alors voilà, vous avez déjà posé en quelques phrases tout l'enjeu de ce débat autour de la laïcité. Une question de Christian Lebarthe de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne pour aller encore plus loin avec vous, Philippe Portier.
Oui, quand on pense à la loi de 1905, effectivement, on a en tête la relation entre l'État et l'Église catholique. Est-ce que vraiment à l'époque, ça n'est que l'Église catholique qui est dans l'horizon du débat intellectuel ou est-ce que vraiment
il y a peu de mosquées en France à l'époque, Philippe Portier.
Comment il n'y en a même peut-être pas du tout. Des communautés protestantes, juives, etc.
Oui, alors les musulmans sont évidemment sur la France métropolitaine extrêmement, extrêmement rares. Quelques lieux de culte simplement. Et il faudra attendre les années 1920 pour voir apparaître, avec le soutien financier de l'État d'ailleurs, la grande mosquée de Paris dans l'actuel 5e arrondissement. Pour ce qui concerne les autres cultes, ils sont évidemment peu impliqués dans la lutte, dans cette fameuse guerre des deux Frances dont je parlais tout à l'heure, tout simplement parce que les deux autres cultes, le culte juif d'un côté, le culte musulman de l'autre, sous ces deux espèces, l'espèce réformée et l'espèce luthérienne, ont pris fait et cause.
Protestant. Vous avez dit musulman.
Oui, protestants, sous ces deux espèces, le culte réformé d'un côté, le culte luthérien de l'autre, ont pris fait et cause en faveur de la République. La République leur semble être favorable à la liberté de conscience, ils ont raison de ce point de vue, favorable aussi à la pluralité des cultes, ils ont raison de ce point de vue, et donc vont adhérer à partir des années 1880 aux lois scolaires, d'une part, et à partir des années 1900, à la perspective de la séparation des églises et de l'État.
Oui, leur conversion à la République, disons, s'est fait tout au long du 19e siècle, au fond, de la Révolution à la loi de 1905, assez progressivement.
Oui, d'une certaine manière, ils approuvent dans un premier temps le système concordataire mis en place en 1801-1802 par Napoléon Bonaparte et son grand juriste Portalis. Tout simplement parce que ce système concordataire est déjà, et pour la première fois au fond dans l'histoire de la société française, un système qui fait droit à la liberté des cultes et à la pluralité des croyances. Le système concordataire reconnaît bien sûr l'Église catholique comme la religion de la majorité des Français, mais il ajoute aussi que le culte protestant d'un côté et le culte juif de l'autre doivent faire l'objet d'une reconnaissance et même d'un subventionnement dès le début pour ce qui concerne le protestantisme, à partir des années 1830 pour ce qui concerne le judaïsme.
Il me semble que dans les derniers mois que nous avons assisté à quelques tentatives pour essayer de reléguer les religions non pas simplement dans une sphère privée mais dans une sphère qui serait cachée. Comme si elles étaient elles-mêmes, elles pouvaient être accusées de ne pas favoriser la possibilité de vivre ensemble, comme si elles pouvaient générer des risques pour la société française. Ce que Mgr Pontier a voulu dire, c'est que si l'État est laïque, la société ne l'est pas et qu'il ne faut pas passer de la laïcité au laïcisme.
Alors on l'entend bien, Philippe Portier, dans votre réponse, que lorsque l'on s'intéresse à cette question, eh bien, le concours de l'histoire et de la sociologie est indispensable pour éclairer ce sujet. Lorsque on vous lit, et vous avez publié de nombreux ouvrages sur cette question, notamment récemment aux presses universitaires de Rennes, l'État et les religions en France, une sociologie historique de la laïcité, tout est dans le sous-titre, vous avez coutume d'insister sur les formes que peuvent prendre la laïcité qui oscillent parfois et même souvent entre une forme liée à la reconnaissance et une autre qui irait davantage sur le terrain de la surveillance. Est-ce que vous pouvez éclairer un petit peu pour nos auditeurs cette articulation qui est au cœur de vos travaux ?
Oui, en effet, j'ajoute juste un point, c'est que il me semble qu'on ne peut pas étudier la laïcité, pour faire droit à votre remarque méthodologique, à partir d'une discipline unique, et que c'est précisément un objet qui se prête bien sûr à la mise en perspective historique, mais aussi à l'analyse des déterminations sociales qui à un moment donné peuvent peser sur la production des configurations juridiques, et précisément à l'analyse très précise des configurations juridiques. C'est Émile Poulla qui disait que la laïcité, c'est d'abord du droit, c'est un système de pacification par le droit, et la question du droit, me semble-t-il, est tout à fait essentielle lorsqu'on essaye de penser la question laïque pour ce qui concerne la France et bien au-delà. J'ajoute un point pour ce qui concerne votre question. Vous venez de pointer l'un des éléments de la mutation récente de la laïcité, reconnaissance d'un côté, surveillance de l'autre. Voyez que ces deux syntagmes renvoient à l'idée que l'État et les Église serait en situation aujourd'hui d'intrication. L'État accepterait de reconnaître un certain nombre de revendications ecclésiales. De l'autre, pour prix de cette reconnaissance, il soumettrait une partie des cultes, peut-être les cultes tout entiers, à une surveillance tout à fait inédite. Il y a dans cette reconnaissance-surveillance un point de rupture que je situe dans les années 1980-1990 qui rompt avec le système antérieur marqué au contraire par une séparation, par une frontière hermétique entre le privé et le public. Et donc,
l'État chez lui, l'Église chez elle, comme disait Victor Hugo, si je vous ai bien lu.
Dans son discours, en effet, concernant la loi Falloux en 1850, l'État chez lui, l'Église chez elle, c'est un point qui est au principe de la théorie d'un Jaurès, de la philosophie d'un Briand, et qui va inspirer la loi de 1905. Par un certain nombre d'ajouts législative, par un certain nombre de productions jurisprudentielles, ce modèle de la séparation va bientôt évoluer dans les années 1990 pour s'ouvrir désormais à un modèle d'intrication des deux sphères.
Christian Lebart.
Oui, je voudrais rouvrir la parenthèse méthodologique d'il y a deux minutes. Travailler sur cet objet, la laïcité aujourd'hui, pour un chercheur en sciences sociales, je parle du point de vue de la Maison des sciences de l'homme, comme le disait Xavier tout à l'heure, c'est quand même extrêmement, extrêmement difficile. Vous travaillez sur ces questions depuis plusieurs années. Il y a quelques années, c'était un objet, je dirais, un peu comme un autre. Le chercheur pouvait faire ses enquêtes, etc., publier, je dirais pas dans son coin, mais avec une relative tranquillité. Or, depuis quelques années, autour de ces sujets, il y a un débat qui est quand même d'une extrême violence. Tous les intervenants au débat sont pris à partie, dans un sens ou dans l'autre. Les chercheurs sont invités, et peut-être on aura l'occasion d'en parler, sont invités à prendre position, à distribuer les bons et les mauvais points, etc. Donc, est-ce que comment vous réussissez à passer un petit peu entre les gouttes?
Ça m'était compliqué que le vôtre, Philippe Portier.
Aux injonctions, au positionnement politique?
C'est une véritable difficulté que vous pointez là. Cette idée que, à partir des approches et des méthodes des sciences sociales, nous essayons, dans la mesure du possible, de poser une analyse objectivante de la réalité. À distance, au fond, c'est en tout cas l'objectif que je me donne des enjeux du débat social immédiat, et pourtant, le débat social immédiat nous rattrape. Nos analyses sont le plus souvent sommées de se positionner dans un champ qui est d'abord un champ politique. Un certain nombre de textes sont produits qui visent à dénoncer tel ou tel type de position que les chercheurs sur la laïcité pourraient prendre, en les accusant toujours finalement de dissimuler derrière leur apparente neutralité une position qui ne savourait pas.
Un procès auquel vous n'échappez pas vous-même d'ailleurs, Philippe Portier, on l'a entendu récemment encore. Hein.
Un procès auquel, hélas, je n'échappe pas moi-même. J'aimerais en effet me situer dans une perspective qui serait d'abord une perspective positiviste, au fond marquée par cette idée que je pourrais échapper au débat social, et le débat social, comme je vous le disais, me rattrape souvent, malgré que j'en ai. Je préférerais être en dehors de ce débat social, en faisant prévaloir une distance que je crois salutaire entre la science et la polémique immédiatement politique, et c'est un point, en effet, qu'il est difficile de respecter quand on est dans la situation de travailler sur un objet aussi chaud et qu'on essaye soi-même de refroidir, mais sans toujours évidemment y parvenir.
Alors vous dites le débat social immédiat nous rattrape, singulièrement dans la période que nous vivons actuellement, ces semaines de pré-élection présidentielle. On voit bien que la laïcité, elle est aussi présente, et Ronan le rappelait tout à l'heure dans le lancement de cette émission, ça devient même un sujet évoqué dans les réunions publiques, dans les meetings. Quel regard portez-vous justement sur cette actualité de la laïcité dans le débat politique de 2017 en France?
Alors, je crois que vous avez tout à fait raison de signaler que la laïcité est devenue ou redevenue un objet tout à fait central de la controverse sociale. On le voit dès le début des années 1990, à la faveur d'une réflexion autour de cette fameuse affaire du voile qui prend corps autour du collège de Creil en octobre 1989. Trois jeunes filles portent le voile, elles sont renvoyées par le principal du collège, et à partir de ce moment-là se noue dans la société française une controverse tout à fait inédite autour de la place que les signes religieux doivent avoir dans ce qu'on appelle alors déjà l'espace public. Deux fronts se constituent sur le terrain intellectuel, un front que j'appellerais volontiers néo-républicain, autour de Catherine Kinsler, autour d'Elisabeth Badinter, autour d'Elisabeth de Fontenay, Régis Debray aussi. On pourrait y ajouter Alain Finkielkraut, qui estime qu'il faut refuser ce qu'ils appellent, dans une tribune du Nouvel Observateur, le Munich de l'école républicaine.
Et puis, oui, les mots sont forts. Hein.
Les mots sont forts, c'est l'idée d'une abdication de la République face à cette affirmation inédite des affirmations des singularités religieuses dans un espace public qu'ils veulent d'abord universaliser. Et puis, contre ce courant, une autre tendance qui se manifeste dans l'espace intellectuel, autour de sociologues comme Michel Wieworka, par exemple, autour de philosophes aussi comme Alain Renaud, qui défendent l'idée qu'une société libérale ne peut jamais mettre sous le boisseau les expressions individuelles. La démocratie libérale est précisément une démocratie de l'affirmation de soi, de la liberté de conscience prolongée en liberté de croyance, et précisément la société française devrait s'ouvrir à ce type de revendication. À partir de ce débat intellectuel, souvent d'ailleurs dans une sorte d'intrication des acteurs, va se nouer dès les années 1990 une véritable controverse sur cette question dont on pourra, si vous le voulez, expliquer tout à l'heure les causes.
Près de 30 ans plus tard, est-ce que l'une des deux écoles l'a définitivement emporté sur l'autre, la néo-républicaine et la libérale?
Il est toujours difficile de parler de victoire définitive, évidemment, mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, si l'on juge le succès d'une doctrine à partir de sa réception par l'opinion publique, il est vrai que depuis les années 2000, en gros, à la faveur de la multiplication des attentats, à la faveur aussi de la construction d'un discours public porté par toute une série d'acteurs politiques et administratifs, la première thèse, la thèse néo-républicaine, tient aujourd'hui la corde et apparaît comme donnant les référentiels essentiels de nos politiques publiques.
Christian Lebart, oui, vous souhaitiez continuer notre échange.
Ce qui est très compliqué dans ces affaires-là, c'est qu'on a d'un côté un débat qui est d'une certaine façon un débat d'assez haut niveau, entre communautarisme, universalisme, etc. Enfin, qui a un beau débat de philosophie politique ou de théorie politique. Et puis, on a, disons, des affaires qui naissent à partir de choses qui sont des micro-objets. Les repas dans les cantines, le vêtement, tel insigne, etc. Et on a un peu l'impression, mais c'est le point de vue d'un non-spécialiste, on a un peu l'impression d'un jeu sans fin. Enfin, jusqu'à quel point on peut arbitrer en principe des questions qui sont un peu effrayantes par leur caractère micro, presque insignifiant d'une certaine façon.
Ce qui est tout à fait intéressant en la matière, c'est de voir que même si le débat a trouvé une vigueur inédite, surtout après le caractère apaisé relativement des années 1950-1980, c'est que les objets sur lesquels ce débat s'est focalisé ne sont pas des objets aussi inédits. Dès la Révolution française, existe une véritable controverse autour du port des vêtements religieux dans l'espace public.
La soutane. Le voile des religieuses.
La soutane, le voile des religieuses qui font l'objet d'une proscription au moment de la décennie révolutionnaire. Les textes du système concordataire prévoient aussi que le clergé devra désormais s'habiller à la française, c'est-à-dire conformément, précisément, à la tenue civile, le vêtement religieux étant réservé au seul espace privé du culte. Des controverses auront lieu au moment de 1905 en la matière, et un député, le député Chabert, demandera en 1905, dans un amendement resté célèbre, qu'on interdise la soutane dans l'espace public de la rue.
Et il va perdre.
Il va perdre. En effet, Briand refusera cette injonction venue de la gauche comme on dirait aujourd'hui, au motif précisément que l'honneur d'une démocratie libérale, c'est d'accepter la différence, même si cette différence nous fait horreur. Alors on voit bien qu'il y a dans la société française quelque chose qui renvoie à une symbolique de l'apparence. Alors il faudrait probablement étudier tout cela. Nous disposons d'un certain nombre d'études d'anthropologie en la matière, l'apparence renvoyant, même à travers son aspect minuscule, à des enjeux qui sont des enjeux tout à fait importants pour la société globale. L'enjeu qui se dit ici, autour de ces signes religieux, dont on va voir ressurgir le caractère central dans les années 1990-2000, c'est précisément de savoir comment une société s'accommode de la différence, elle qui se pense, à partir de la Révolution française, mais probablement auparavant, l'Ancien Régime est déjà fondé sur ce tropisme, elle qui se pense à partir du principe d'unité. Comment, dans une société comme la société française, peut-on articuler l'unité et la pluralité? Les sociétés anglo-saxonnes, très souvent, ne se posent pas la question de cette manière-là. Il se trouve qu'en France, vieux pays marqué déjà par le principe d'unité de foi sous la monarchie, pays marqué par l'unité de la raison, qui par mimétisme, comme l'a bien montré le gendre, reprend un certain nombre de principes fondateurs de la vieille monarchie, comment précisément dans une société ainsi affectée à l'universel ou à l'unité, on peut, à travers cette apparence vestimentaire, à travers cette apparence culinaire aussi, faire accueil à une différence qui n'accepte pas totalement de se placer sous le surplomb d'un universel qui viendrait la nier.
Au lendemain des manifestations contre la future loi interdisant les signes religieux à l'école, le débat sur la laïcité prend de l'ampleur, une question qui déchaîne les passions. Mais en Alsace et en Moselle, toujours sous le régime du Concordat, la loi qui s'appliquera dès la prochaine rentrée scolaire ne changera rien. Les élèves recevront toujours un enseignement religieux obligatoire.
Nous sommes toujours dans l'émission Chercheurs en ville. On pourrait presque penser que c'est de la psychanalyse que vous êtes en train d'évoquer là pour aller décrypter nos comportements les plus anciens et les plus profonds. On est avec vous, Philippe Portier, en train de parler de la place de la laïcité dans le débat politique national. Si on resserre un petit peu la focale et que l'on regarde à présent comment ce concept reçoit un écho, et quel écho, justement, à l'échelle plus locale, des territoires, comme on dit aujourd'hui, la commune, la ville, la région. Là aussi, c'est un débat qui s'est invité à cette échelle territoriale-là. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Il y a eu des décisions qui ont été prises, notamment par les élus, par les maires des grandes villes.
Là encore, il faut se situer dans la profondeur historique. Gabriel Le Braz, grand juriste qui a beaucoup travaillé sur ces questions dans les années 1930, 1940, 1950, qui a été conseiller du ministère de l'Intérieur chargé des cultes, a longtemps dit qu'il y avait une régulation des cultes au niveau communal. Et il avait raison. Les maires ont pris des décisions dès les années 1900, juste après la loi de 1905, souvent pour limiter le pouvoir des prêtres dans leur espace public, la capacité de démonstration de l'Église sur la voie publique. Il se trouve que le Conseil d'État est intervenu pour réguler l'activité des prêtres et à travers des maires, et à travers ce jeu entre maire d'un côté et juge de l'autre, s'est manifestée cette idée que la laïcité ne concernait pas simplement l'État surplombant, mais également avait à voir avec la société dans ses aspects les plus locaux.
D'autant que c'est là qu'on peut mesurer la réalité d'une mesure prise sur une décision de police municipale, par exemple.
Tout à fait.
Il y avait... pas déjà un peu les accommodements raisonnables, au fond, à l'échelle un peu...
Alors, il y a eu, pour ce qui concerne le passé, il y a eu deux types de politiques. Nous avons eu, dans un premier temps de l'histoire de la séparation française, des dispositions municipales qui étaient souvent des dispositions restrictives pour la liberté des cultes. En particulier dans les municipalités gérées par des socialistes de la SFIO ou par des radicaux. Leur idée était que le culte devait rester attaché à la sacristie, attaché à l'autel, et ne devait pas connaître des expansions sur la voie publique elle-même. Du coup, il prenait des arrêtés sur cette question qu'on pourrait juger aujourd'hui liberticide, l'interdit de procession, et certains même...
Qui était pourtant très à la mode à l'époque dont vous parlez, dans les années 30 jusqu'aux dans les années 50-60. Ces démonstrations de l'Église catholique sur l'espace public étaient une réalité sociologique importante.
Oui, c'est un des points de reconquête, ou en tout cas de résistance de l'Église face à la modernité, montrer qu'elle dispose encore de capacités de mobilisation, et une mobilisation qui s'exprime non seulement à l'intérieur des Églises, mais également à l'extérieur, les processions étant l'un des éléments de cette visibilisation publique de la foi. J'ajoute juste un point, c'est que les maires en question vont agir pour limiter ce pouvoir de ce droit de procession et vont être sanctionnés par le Conseil d'État. Et du coup, à partir des années 1920-1930, la liberté en la matière est acquise, avec pour seule restriction, peut-être pourra-t-on revenir sur ce concept un peu plus loin, l'ordre public. Un ordre public que le Conseil d'État, d'ailleurs, envisage de manière extrêmement restrictive, en estimant que l'ordre public, à l'époque, ne peut s'analyser qu'à partir de trois éléments matériels, la salubrité, la tranquillité et la sécurité, ce qui laisse à la liberté religieuse, au fond, une grande marge de développement. Il y a un second élément sur lequel les municipalités vont bientôt intervenir, en dehors de cette question de la police que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la question du financement. Et déjà, dans les années 1930, se pose le problème de savoir si des municipalités peuvent mettre à disposition des cultes des terrains sur le fondement de ce qu'on appelle déjà les baux emphytéotiques, la possibilité d'offrir à des associations cultuelles un terrain afin d'y construire une église, recevant pour cela un loyer modique, avec la possibilité, à la fin du bail, de récupérer l'édifice du culte ainsi construit.
Il y a un petit accommodement avec la loi de 1905, parce que ce n'était pas tout à fait autorisé au départ, cette possibilité-là,
voilà, un contournement. On retrouve là l'expression de Christian Lebarthe à l'instant. On est déjà, dans ces années-là, dans des micro-accommodements raisonnables qui vont s'amplifier encore dans les années 1960-1970. C'est une période de transition. Nous ne sommes plus exactement dans la période de séparation qui marque la loi de 1905. Nous ne sommes pas encore dans la politique recognitive qui va marquer les années 1960-1970-1980. C'est une période de transition qui nous achemine doucement vers un système d'interaction entre les Églises et l'État. Et en effet, pour répondre à votre question, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui a donné à ces accommodements raisonnables, au fond, beaucoup plus d'importance qu'on ne le croit. De ce point de vue, si la société française demeure attachée à certains de ses traits constitutifs, elle a su aussi, sous l'effet des pressions du social, c'est pourquoi la sociologie est tellement essentielle quand on étudie la laïcité, elle a su aussi s'ouvrir s'ouvrir à des revendications qui n'étaient sûrement pas acceptable dans le début de la laïcité française au tournant du 19e et du 20e siècle.
Alors Philippe Portier, nous allons poursuivre cet entretien passionnant autour de la question tout à fait contemporaine, tout à fait moderne et actuelle de la laïcité. Mais avant cela, nous faisons une petite pause musicale avec un titre évidemment de circonstance. Il s'agit du morceau « Oh God » de Chris Garnot.
C'était Chris Garnot avec le morceau « Oh God » à l'instant sur Canal B dans l'émission « Chercheurs en ville » consacrée en ce mois d'avril à la très sensible question de la laïcité, un principe qui a évolué depuis la fin du 19e siècle, une valeur qui a su s'intégrer à la société française du 20e, mais qui, on l'a entendu en première partie d'émission, cristallise depuis une trentaine d'années des tensions, notamment lorsqu'on évoque l'école. La laïcité associée pour beaucoup à la loi de 1905 que certaines collectivités locales n'hésite pas à réinterpréter en soutenant par exemple l'implantation de cultes sur leur territoire. Certains y verront une reconnaissance, d'autres une surveillance du religieux par le politique. Dans la deuxième partie de cette émission, nous revenons au 21e siècle. Sera-t-il marqué par le retour du spirituel ? Comment nos élus ou candidats à la fonction suprême s'imprègnent-ils du sujet ? Réponse avec notre invité Philippe Portier, professeur de sciences politiques, qui répond aux questions de Xavier de Montride et Christian Lebar.
Alors Philippe Portier, nous parlions juste avant notre pause musicale des problématiques liées à la laïcité, ses déclinaisons, son rapport aussi aux politiques. Et justement, puisque nous sommes dans une période électorale très, très riche et très vive, Christian Lebart, vous avez une question à poser à notre invité sur cette place de la laïcité dans le débat politique actuel.
Oui, je voudrais revenir sur le contexte d'élection présidentielle. Je suis peut-être moins convaincu que vous ne sembliez l'être l'un et l'autre du fait que cette thématique de la laïcité serait si centrale que ça dans la campagne. Et mon hypothèse serait que ça a probablement à voir avec le fait que la laïcité, qui a longtemps été un marqueur à gauche très... très fétichisé, presque une sorte de totem, comme on dit, pour la gauche, aujourd'hui se balade un peu, c'est-à-dire qu'elle, d'une part, il y a des désaccords à l'intérieur de chacune des familles politiques sur ces questions, et puis d'autre part, il y a la récupération par Marine Le Pen, donc ça apporte encore de la complexité au débat sur la laïcité aujourd'hui.
Oui, je pense que les remarques que vous faites sont justes. On avait pu dire que dans les années 1990, 2000 et 2010, la question culturelle ou la question identitaire s'était substituée à la question sociale comme marqueur des positionnements sur la scène politique. En effet, je me suis également fait la réflexion, qui est une réflexion qui vient briser cette interprétation, suivant laquelle la question sociale réapparaîtrait aujourd'hui dans les oppositions qu'on peut voir entre d'un côté Mélenchon, par exemple, et puis de l'autre Fillon. C'est un point qu'il faudra analyser une fois que la campagne sera terminée, et voir si, une fois que ce point aura été vérifié, si les choses se maintiennent dans le temps. Il me semble en tout cas que votre analyse est juste, c'est-à-dire que là où il y avait auparavant une affirmation très claire d'un discours laïque à gauche, fondé essentiellement sur le principe de séparation, marqué par un anticléricalisme venu du 19e siècle, il y avait du côté de la droite une profonde distance, parfois méfiance, à l'égard d'un principe de laïcité qu'on analysait à juste titre parfois, comme étant un instrument de lutte contre la croyance religieuse. Alors, les choses, de ce point de vue, avaient évolué un peu avec les prises de position du MRP après la Seconde Guerre mondiale, mais on voit bien qu'à partir des années 1990 et surtout 2000, l'idée laïque devient une idée de droite. Pas seulement de droite, mais également de droite. Il y a un rapport qui est très, très important de ce point de vue, qu'on a oublié aujourd'hui, qui est un rapport de juillet 2003, écrit par François Baroin, présenté au Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, à la demande du président de la République, Jacques Chirac. Et le premier point de ce rapport est d'affirmer que la laïcité a longtemps été une idée de gauche et qu'il convient que désormais elle devienne une idée de droite. Simplement, François Baroin, recevant l'approbation de son camp politique, estime que cette laïcité ne doit pas être prise à sa valeur historique et qu'il faut construire ce qu'il appelle lui-même une nouvelle laïcité. Une laïcité qui serait marquée par l'affirmation de valeurs communes, des valeurs nationales, auxquelles il faudrait subordonner les appartenances, les identités, les singularités qui ne cessent, de son point de vue, de se manifester depuis le début des années 1990.
Et comme par hasard, historiquement, ça correspond au moment où l'islam en France commence à faire débat.
Voilà, on a affaire à une laïcité qu'on appelle alors volontiers une laïcité identitaire. Cette idée qu'à travers le droit de la République peut s'affirmer un corpus de valeurs sans doute juridiques, le libéralisme démocratique, mais aussi des valeurs plus profondes, des valeurs culturelles, auxquelles on sommerait les nouveaux arrivants de soumettre leurs propres habitudes, leurs propres appartenances. Et on entre là dans un nouveau modèle qui va déboucher sur un certain nombre de dispositifs juridiques, car il ne suffit pas de parler, il faut encore mettre en application les paroles politiques. Ces paroles politiques vont avoir un effet performatif et déboucher sur un certain nombre de dispositifs juridiques qui vont permettre à cette nouvelle laïcité non seulement d'apparaître comme un référentiel de la droite, mais aussi comme un référentiel des nouvelles politiques publiques.
Vous insistez sur les racines et les valeurs chrétiennes. La France chrétienne et les autres.
Oui, j'ai des valeurs. Et je m'excuse pas d'avoir des valeurs. Je crois à la famille, je crois à l'autorité de l'État, je crois au travail. Ce sont des valeurs qui font rire à l'intérieur du périphérique, mais qui, dans le cœur des Français, sont au contraire des valeurs profondément ancrées.
Est-ce que c'est à ce moment-là, Philippe Portier, que l'on voit réapparaître dans le discours politique, et notamment dans la bouche des héros de la droite française, cette référence assez marquée à ce qu'ils appellent les racines chrétiennes de la France? Est-ce que c'est lié, à la fois cette reconquête par la droite du concept même de laïcité, et puis cette affirmation que finalement la France telle qu'elle est aujourd'hui va chercher des racines dans un substrat chrétien qui fait qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle est?
Alors, on voit apparaître le concept d'identité nationale dans les années 1980. Fernand Braudel écrit un livre dans ces années-là qui s'appelle « L'identité de la France » et qui dénote déjà une sorte d'inquiétude vis-à-vis d'une société, probablement d'un monde, qu'on a du mal à maîtriser. Alors on met souvent en évidence le fait que cette identité devient un fétiche politique à partir du moment où le monde globalisé met en péril les frontières politiques, mais aussi les frontières culturelles, à partir desquelles s'étaient construits nos nations. Très vite, le concept d'identité va être lesté, en effet, par une acception adjective. On parle d'identité française, mais aussi, de plus en plus, d'identité chrétienne. Une identité chrétienne qu'on voit poindre dès le début des années 1990, avec des discours fameux déjà de Philippe de Villiers, discours dans le même sens de Charles Pasqua, avec un développement tout à fait considérable à la fin des années 2000 et tout au long des années 2010. On réarticule, cela avait été le cas d'ailleurs à la fin du 19e siècle, mais on avait oublié ce discours-là, on réarticule désormais de manière de plus en plus nette francité et catholicité. De ce point de vue, le septennat, ou le quinquennat plus exactement, de Nicolas Sarkozy va tout à fait dans ce sens, avec le début de sa campagne électorale, nous sommes en 2007, au Mont-Saint-Michel, avec la visite des grands lieux chrétiens, et en particulier la basilique du Puy, par exemple, autant d'éléments qui renvoient à une inscription du président ou du futur président dans une France qui est d'abord marquée par des symboles, par une symbolique qui est une symbolique chrétienne. Et l'on verra bien dans ses propres discours qu'autour des racines chrétiennes de la France se noue l'essentiel de ce qu'il estimait l'identité nationale. Alors, les choses auraient pu s'arrêter là. Elles ne se sont pas arrêtées là, car même du côté de la gauche, cette idée d'une association entre le christianisme d'un côté et puis la nation, qu'on redécouvre, on parle alors d'une revanche des nations, trouve un véritable écho. Il n'est que de lire, par exemple, un certain nombre de déclarations de l'ancien ministre de l'Intérieur, devenu aujourd'hui Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui a à plusieurs reprises estimé...
Il a parlé du génie des cathédrales, je crois.
Qui a parlé du génie des cathédrales, en effet, et qui, à plusieurs reprises, a mis en évidence l'importance d'enraciner notre propre nation dans un corpus culturel qui lui viendrait de son génie chrétien.
Christian Lebar.
Oui, vous parliez au début de cet entretien de la grande manif de 1984 comme du chant du cygne d'une certaine France catholique. Et alors on peut jouer sur les mots, mais est-ce que d'une certaine façon, c'est pas aussi le début de quelque chose, à savoir le retour dans l'espace public d'une France catholique qui paradoxalement, entre 1905 et 1984, c'est vraiment des dates comme ça, hein, mais... s'accommoder assez bien d'être à la fois marginalisé par la laïcité, mais sociologiquement hégémonique, qui restait assez hégémonique sociologiquement, sur le terrain, comme on disait tout à l'heure. Or, ce qui bascule à partir des années 90-2000, c'est cette hégémonie sociologique, et du coup avec beaucoup de ressentiment et de vexation. C'est-à-dire, au fond, le raisonnement, c'est de dire... nous catholiques, nous avons fait toute une série de concessions, nous avons fait l'effort de, etc., etc. Nous avons renoncé à, et voilà, les musulmans de France ou les musulmans en France n'acceptent pas de faire le même chemin que nous, et ont face à eux un État qui est beaucoup plus prêt à composer que ne l'était l'État en 1905. Donc je trouve que ça participe...
Deux poids, deux mesures, c'est voilà, ça l'idée.
J'ai l'impression qu'il y a dans cette réaction, alors ça, c'est le virage à droite de la France électorale des années dernières, mais je pense qu'il y a aussi autour de ces inquiétudes sur l'identité de la France, etc., il y a aussi une sorte de quelque chose que j'apparente un peu à un ressentiment de cet ordre.
Vous partagez cette analyse, Philippe Portier ?
C'est un point extrêmement, extrêmement intéressant que Christian Lebart vient de signaler. Juste un mot pour préciser ma pensée. Je disais que le débat autour de la laïcité s'était construit jusque dans les années 1980 autour des reliquats de la guerre des deux France. Le catholicisme d'un côté versus la sécularité ou l'anticléricalisme républicain. À partir des années 1990, l'enjeu change. C'est davantage autour de l'islam que le débat sur la laïcité se construit. Alors ça, c'est un premier point. En revanche, il faut évidemment, lorsqu'on étudie ce genre de choses, penser également la mobilisation des groupes religieux en tant que tels. Et je pense que, en effet, la description que vous donnez de ces dernières années concernant le catholicisme est tout à fait juste. Nous avions jusqu'aux années 1970-1980 une France qui culturellement demeure une France catholique. Bien sûr, un certain nombre de choses évoluent sur le terrain du droit politique. Nous sommes passés d'un système concordataire à un système désormais séparatiste. Et jusqu'aux années 1900, jusqu'au Concile Vatican II, ce sont des choses qui déplaisent au monde catholique, mais globalement. La culture globale de la France demeure encore rivée à son corpus de valeurs chrétiennes. C'est Sartre lui-même, pourtant prophète d'un humanisme athée, qui considérait qu'en France, nous étions tous chrétiens. La remarque portée juste, il y avait cette idée perceptible d'ailleurs dans les lois autour de la famille, autour de la sexualité, autour de ce qu'on pourrait appeler l'intime, que la culture catholique demeurait l'horizon commun de l'ensemble de la population française. Il y a un véritable décrochement. Déjà à partir de la fin des années 1960 et suivant une ligne continue, accélérée, à partir des années 1970, loi sur l'interruption volontaire de grossesse, bientôt les lois bioéthiques, 1994, la loi sur le PACS, 1999, et on y ajoutera, en 2013, la loi sur le mariage entre personnes homosexuelles. On voit bien que c'est un univers qui se transforme et qui signale, au fond, la sécularisation de notre société. Alors, de ce point de vue, il faudrait peut-être convoquer un débat sociologique pour éclairer davantage la réponse que je voudrais apporter à la question de Christian Lebart à l'instant. Le débat sociologique est le suivant. Est-ce que nous sommes confrontés à une société qui serait en voie de sécularisation linéaire, univectorielle, irréversible et irrésistible? Le mouvement tocquevillien, au fond, vers la démocratie, vers l'égalité des conditions. Alors, cette thèse a été développée par un certain nombre de chercheurs dans les années 1960-1970, en sociologie des religions des auteurs comme Brian Wilson, en sociologie politique des auteurs comme Gabriel Almond, par exemple, qui disait que finalement ne resterait que du religieux que sa puissance de consolation, rien d'autre. Le religieux s'effacerait bientôt de nos champs d'expérience publique et même de demain de nos horizons d'attente privée. L'idée que le religieux n'aurait plus sa place dans une société rendue aux seuls arguments de la technique et de la raison. Or, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'au concept de sécularisation, il faut plutôt préférer le concept de polarisation. Ce à quoi renvoie l'analyse qui vient d'être faite. L'idée qu'en effet la société française se sécularise, les dispositifs législatifs que je viens d'indiquer marquent bien une sécularisation, une déprise du religieux, non seulement sur le droit politique, mais sur le droit de la famille, sur le droit de l'intime,
mais
provoquant précisément un certain nombre de résistances qui sont des résistances venues des tréfonds de la société française, pour parler comme Durkheim, venues d'une poussée du social qui n'entend pas se soumettre à cette vague nécessaire de sécularisation et qui oppose à cette vague de sécularisation un certain nombre de résistances culturelles.
Alors, ça vaudrait aussi bien pour les catholiques, pour les musulmans.
Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on ne peut pas, me semble-t-il, faire une distinction entre d'un côté les catholiques et de l'autre les autres, et de l'autre, de manière, dans une opposition frontale, les autres groupes religieux. Il y a très souvent des phénomènes qui sont des phénomènes complexes. Sur un certain nombre de dossiers, les catholiques peuvent constituer un front des religions avec les autres religions, et en particulier avec la religion musulmane. C'est le cas pour ce qui concerne la régulation de l'intime. On l'a vu au moment des manifestations touchant au mariage pour tous. Sur d'autres réalités, comme la réalité de l'identité nationale, la réalité de la configuration de notre être politique, là il peut y avoir des différences avec d'un côté l'affirmation des racines chrétiennes de la France et puis de l'autre, du côté des musulmans, l'idée qu'il faut se montrer accueillant, hospitalier à l'égard de la différence, avec cette idée conséquente que la France ne peut pas se définir uniquement par sa catholicité. Et on voit bien que nous sommes là dans un champ extrêmement, extrêmement complexe, avec des lignes de fracture qui ne sont pas totalement superposables.
Faut pas mêler Allah à vos actes criminels. Faut pas mêler Mahomet à vos actes criminels. Faut pas mêler Allah à vos actes criminels. Faut pas mêler Mahomet à vos actes criminels. Pas un dieu terroriste. Mahomet n'est pas un prophète terroriste.
Alors Philippe Portier, vous rappeliez à l'instant effectivement cette évolution de la manière dont les observateurs, les sociologues, les historiens ont mesuré ce degré d'imprégnation religieuse dans nos sociétés contemporaines. On a fait dire, alors je ne sais pas s'il l'a vraiment prononcé, on a fait dire à André Malraux que le 21e siècle serait religieux ou ne serait pas. À l'époque, lorsque cette phrase a été prononcée, on était dans les années 60 ou 70, ça semblait quand même assez incongru que et ça correspondait justement à rebours des analyses que vous venez de citer. Aujourd'hui, on se dit, mais finalement, c'était presque prophétique, ou en tout cas visionnaire, une telle affirmation.
Oui, si mes souvenirs sont exacts, André Malraux prononce cette phrase dans une tribune de l'Express au début des années 1970. Et l'époque est en effet l'époque du grand triomphe du paradigme que j'exposais tout à l'heure, le paradigme de la sécularisation, voyant le religieux s'effacer de nos horizons, de nos perspectives. Et puis, quelques auteurs interviennent. À l'époque. Je pense en particulier à Revel, qui produit un texte qui s'intitule « Jésus et Marx ». Je pense aussi à Frossard, qui produit un livre intitulé « Le cadavre de Dieu bouge encore ». Et puis, en effet, cette phrase d'André Malraux, qui peut-être de manière prophétique nous annonçait à l'époque le retour ou la survivance Le retour à un religieux qui ne devait pas mourir. Alors, bien sûr, on remarquera que André Malraux utilise le concept de spirituel. Et de ce point de vue, sa prophétie, son pronostic, apparaît comme étant encore davantage en phase avec la réalité. Ce qui distingue le spirituel et le religieux, c'est que le religieux, si on le prend dans sa définition peut-être la plus évidente, nous rattache à des corpus d'énoncés, à des corpus de croyances régulés par des institutions fortes. Le spirituel est au contraire le corpus des énoncés sacro-saints laissé à la subjectivité de chacun. Et je crois que ce qui caractérise en effet le rapport à la transcendance dans des sociétés comme les nôtres, c'est qu'on est on est confronté à des rapports qui sont des rapports distanciés, vagabonds, buissonniers, qui permettent à chacun, au fond, de se construire pour son propre compte ses propres îlots de foi, indépendamment des régulations ou du politique ou du religieux institutionnalisé.
Christian Lebart, une question.
Ce qui, du coup, nous ramène à la loi de 1905, c'est-à-dire un contexte dans lequel on discutait d'institution à institution et puis les oies suivaient, si j'ose dire, alors qu'aujourd'hui on est dans un contexte de désinstitutionnalisation du monde, on est d'accord là-dessus, d'individualisation du rapport au sacré et du coup aussi d'insaisissabilité, le mot n'est pas très beau, des comportements avec quand même là pour le coup peut-être une différence entre le catholicisme et l'islam, puisqu'on a dans un cas un appareillage centralisé qui est un peu fragilisé, mais enfin qui continue à fonctionner, et puis de l'autre, au contraire, une pluralité de déclinaisons, d'appropriations, de lectures, etc.
Oui, et cette analyse nous permet probablement de comprendre un certain nombre d'évolutions de la laïcité contemporaine lorsqu'on saisit la laïcité comme étant l'objet d'une politique d'État. Il se trouve que les gouvernants se trouvent aujourd'hui fort démunis devant une croyance qui leur échappe de toutes parts, qui leur échappe du côté des catholiques, en partie, car même chez les catholiques d'identité, ces catholiques qui réclament un réarmement moral de nos sociétés, il y a une subjectivation du croire qui se manifeste et qui les a conduits à prendre, en dehors des régulations de l'épiscopat, les positions qu'on sait au moment du mariage pour tous. Mais cela vaut aussi dans d'autres groupes religieux, les juifs, les musulmans, surtout, connaissent aujourd'hui des phénomènes de dérégulation, dérégulation par rapport à leurs propres institutions du croire, mais comme vous l'avez précisé à l'instant, ces institutions étaient des institutions très, très décentralisées, très, très éclatées, mais même, c'est la grande thèse d'Olivier Roy, vis-à-vis d'une culture musulmane préalable, avec cette idée que sur le fondement de l'identité religieuse, peut s'inventer du neuf. Et précisément, face à cette dérégulation de la foi, les gouvernants sont amenés à construire aujourd'hui des dispositifs nouveaux de régulation politique qui visent à recréer de l'institutionnalité dans un monde qui est marqué pourtant par l'effervescence des subjectivités.
Philippe Portier, nous arrivons presque au terme de cette émission passionnante. On aurait pu parler, et on aurait peut-être dû le faire d'ailleurs dans cette émission, mais vous reviendrez, c'est promis, du Conseil consultatif de la laïcité, une expérience assez originale mise en place à Rennes, justement pour réfléchir à l'échelon local sur cette problématique de l'articulation de la sphère publique et de la sphère privée sur ces questions religieuses. Vous avez participé à leurs travaux, vous avez été auditionné, je crois, par leurs équipes. C'est une démarche assez originale, d'un mot, vous pouvez peut-être la qualifier.
C'est une démarche qui renvoie à cette reconfiguration de la laïcité française. Cette reconfiguration vaut au niveau national, elle vaut au niveau local. Cette idée que les cultes peuvent être reconnus socialement et même juridiquement désormais par un État ou par des collectivités locales qui assignent à cette reconnaissance une double finalité. La première finalité, c'est finalement, dans une société démo-libérale, de faire accueil aux singularités telles qu'elles s'expriment. Après tout, au nom de quoi le politique pourrait-il faire obstacle à la liberté de conscience thématisée en liberté religieuse ? Puis un second point qui est très important, c'est que dans une époque de troubles, on le disait tout à l'heure, de dérégulation des affiliations religieuses, les gouvernants cherchent à créer de l'institution pour permettre à la société de vivre dans une cohérence qu'elle recherche sans fin.
Et l'échelon local, de ce point de vue, peut aussi apporter des éléments de réponse intéressants. Philippe Portier, c'est la fin de cette émission Chercheurs en ville. Je rappelle que vous êtes l'auteur aux presses universitaires de Rennes de l'État et les religions en France, une sociologie historique de la laïcité. Vous travaillez régulièrement sur ces questions. Un autre ouvrage collectif est en préparation. Nous suivrons évidemment votre actualité avec beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir répondu aux questions de Christian Lebart et aux miennes. C'est la fin de cette édition et c'est la suite de votre programme sur Canal B.